Je vous invite à suivre la lecture d'un texte connu qui m'a parlé. En fait, je ne vais le méditer que sur trois mots. Peut-on vraiment faire une prédication sur trois termes, sur trois mots? C'est risqué. Pourtant, nous croyons à l'inspiration verbale, donc des mots de l'Écriture dans le texte original, certes. Mais comme dans le texte que je vais lire, il n'y avait pas d'erreur possible de traduction, je pourrais dire que c'est aussi en français que le texte est divinement inspiré. C'est un des récits de la conversion de Paul. Il est rapporté trois fois dans Acte 9, dans Acte 22 et Acte 26. Je vous propose de le lire dans le récit que Paul lui-même donne dans Acte 22. Du verset 6. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit « Moi, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis, « Que ferai-je, Seigneur ?» Et le Seigneur me dit, « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce qu'il t'est ordonné de faire. » Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me conduisirent par la main et j'arrivai à Damas. Ce qui m'a frappé, c'est tout simplement Saul. Saul, pourquoi? Le fait déjà que Dieu appelle, et ça a été chanté, ça a été relu tout à l'heure, c'est phénoménal. C'est Dieu qui appelle. Il a pris l'initiative. On trouve souvent d'ailleurs cette formule « Dieu appela et dit » sous différentes formes. Il y a par exemple « Dieu appela Adam et dit » ou « Dieu appela Adam et il lui donne un ordre ». Et encore plus rarement, on trouve le nom répété. Abraham, Abraham. Je vais citer quelques autres exemples. L'initiative de l'appel vient toujours de Dieu. Le texte de la Bible est formel. Il nous a appelés. Et il continue de nous appeler. Vous connaissez ce texte de Pierre. Il nous a appelés à sa communion, à sa lumière. Il nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse ou admirable lumière. Face à cet appel, deux réactions possibles. Une que l'Écriture condamne. Cette réaction est déjà soulignée par les prophètes de l'Ancienne Alliance et rappelée également dans le Nouveau Testament. Il y a ceux qui entendent, mais ils ont des oreilles et n'entendent pas, des yeux et ne voient pas. Ils font un choix sélectif dans tout ce qu'ils entendent. Ils éliminent ce qui leur paraît douteux ou inintéressant. Ils ne gardent que ce qu'ils ont plaisir à entendre, ce qui va dans le sens de leur propre désir. Puis il y a ceux qui, délibérément, refusent d'écouter. Ils se bouchent les oreilles. On trouve l'expression également dans la Bible. Et puis il y a celles que l'Écriture recommande et que dont Paul va être un exemple. Écoutez et tirer les leçons d'un appel extraordinaire. Pourquoi Dieu rappelle-t-il parfois ou appelle-t-il parfois deux fois le nom? Rassurez-vous, Dieu ne bégaye pas. Il y a certainement une raison, et il ne le dit pas chaque fois. Il y a quelques personnages dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament qui sont interpellés deux fois de suite. Parfois, les deux appels sont séparés par un certain temps. dimanche dernier, Étienne a commencé le commentaire de Jonas. Vous le savez, Dieu appela Jonas une première fois. En vain. Et puis Jonas est parti, et l'Éternel appela ou appellera Jonas une deuxième fois, et cette fois-ci avec succès. Dans le cas que j'ai lu, celui de Saul, il n'y a pas d'intervalle entre les deux appels. Saul, Saul, c'est solennel, j'ai envie de dire. Pour bien nous faire comprendre peut-être l'importance de ce double nom cité immédiatement, évoquer quelques exemples de la Bible. Dieu n'a pas de lubie. Dieu n'agit pas par hasard. Il y a le premier exemple, c'est dans Abraham. Et c'est au chapitre 22. Dans une situation particulière, Dieu avait demandé à Abraham d'offrir son fils en sacrifice. Et Abraham a obéi. Et il était sur le point de percer, de sacrifier son fils, quand Dieu a dit « Abraham, Abraham !» L'urgence. C'était urgent qu'Abraham écoute et arrête le mouvement qui allait tuer son propre fils. Un peu plus loin dans l'histoire, il y a Jacob. On parle beaucoup de Jacob, mais une seule fois, il est dit « Jacob, Jacob !» C'est dans Genèse 46. Il y avait des dizaines d'années déjà que Jacob marchait avec Dieu, et que Dieu l'avait appelé plusieurs fois, mais chaque fois, une seule fois, une seule mention de son nom, Jacob. Pourquoi, dans Genèse 46, Dieu répète-t-il « Jacob, Jacob ?» Genèse 46, Jacob vient d'apprendre que son fils Joseph, qu'il croyait mort, est vivant. Et ce vieillard, Jacob, est invité à rejoindre Joseph en Égypte, celui qu'il n'a pas vu depuis des dizaines d'années. Et vous imaginez qu'il fallait là un encouragement très particulier de Dieu. Jacob, ne t'en fais pas, tu le reverras, vas-y. Et en même temps, c'est l'annonce d'une descente dans un pays où le peuple va rester des siècles. Il y a donc quelque chose de très solennel dans la manière dont Dieu interpelle Jacob avant qu'il ne s'engage vers l'Égypte et que son peuple, que ses descendants y restent longtemps. Et puis en Égypte, il y a Moïse. C'est un peu vers la fin de cette période. Jacob marque le début, Moïse la fin. Moïse se trouve un jour en train de paître les troupeaux de son beau-père et il entend, il voit d'abord un buisson, il flamboie, qui ne se consume pas, et il s'en approche, curieux, et ne mesure pas la gravité, la solennité de l'événement et la sainteté du lieu. Et Dieu est obligé d'appeler « Moïse, Moïse, arrête !» Tu marches sur une terre sainte. Réfléchis. Attention à ce que tu vas faire. Ta propre vie dépend de l'obéissance à mon appel. Plus loin, il y aura Samuel. Je vous fais une parenthèse. Dieu n'appelle pas que des hommes, des adultes. C'est vrai qu'il a appelé des hommes, mais dans l'Ancien Testament, il y a aussi l'exemple de Agar, une femme. Et puis j'en étais en train de mentionner Samuel, qui est probablement un adolescent. Dieu ne fait pas de ségrégation. Il appelle les hommes et les femmes de tout âge. Samuel reçoit donc ce double appel. Et vous devez bien le situer, parce que ne faut pas vous tromper. Samuel est au service du prophète Élie et il fait une expérience. Dans la nuit, il entend sa voix. Il entend Samuel. Mais une seule fois. Et c'est après que Élie est convaincu, Samuel, que finalement, ce n'était pas lui qui l'appelait, mais Dieu qui l'appelait, Dieu va se présenter. Et lui dira deux fois, Samuel, Samuel. Ce sera le début d'une révélation fracassante. Changement de sacrificature, changement de gouvernement dans le peuple. On était passé d'une relative théocratie vers une monarchie. Et chaque fois, c'est un virage dans l'histoire du peuple que Dieu se manifeste en répétant le nom ou du prophète ou du patriarche. Tout à l'heure, Jean-Marc a lu l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Et vous savez que dans un des autres récits, Jésus dira « Jérusalem, Jérusalem ». Il va répéter deux fois. Et si on s'arrête un tout petit peu, on peut imaginer que c'est une révélation brutale que la ville ignore. Toi qui lapides les prophètes. Et en même temps, le témoignage d'une profonde tristesse de la part de Jésus, Jérusalem, Jérusalem. La répétition du nom traduit et exprime l'émotion de Jésus. Dans les évangiles, il y a Marthe, Marthe, Marthe. Tu t'inquiètes. Ça pourrait paraître une parole banale, pourquoi a-t-il choisi Marthe? Mais il va dire à Marthe une révélation profonde. Ce qui prime, ce n'est pas de t'affairer dans la cuisine, c'est de te mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Voilà. Il ne condamne pas Marc, il rétablit tout simplement l'ordre des priorités. Le message est ferme, il est solennel et en même temps empreint d'affection. Et puis il y a Simon, Pierre. Là aussi, Jésus a parlé souvent à Simon. Dans plusieurs cas de l'histoire. Et une seule fois, au moment où Pierre va promettre qu'il ira jusqu'à la mort pour son sauveur, Jésus dit « Simon, Simon, j'ai prié pour toi. Et quand tu seras rétabli, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Pourquoi est-ce à ce moment-là que Jésus voit la nécessité de répéter le mot, le nom Simon ? D'abord parce que c'est très solennel. Simon ne se connaît pas. Et il va apprendre que Jésus, le Fils de Dieu, prie pour lui. Et déjà, lui annonce un mandat particulier. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. C'est donc de nouveau une tranche d'histoire nouvelle qui s'ouvre pour l'apôtre. Puis, ce n'est pas toujours des noms qui sont répétés. Parfois, une expression à laquelle on ne prête pas beaucoup attention, et elle sort généralement de la bouche de Jésus-Christ. En vérité, en vérité. Et je regrette parfois que des versions modernes aient transformé en « je vous le dis vraiment ». Je préfère personnellement la répétition compte tenu de l'insistance que comporte cette répétition. Jésus va souligner l'importance unique, révolutionnaire de ces paroles. En vérité, sans aucun doute, sans aucune contestation, je vous le dis. De temps en temps, cette répétition se trouve dans la bouche des gens qui vivent dans l'illusion. Cette fois-ci, la question est inversée. Dans Actes, c'est « Saul, Saul, pourquoi ?» Dans l'Évangile de Luc, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ?» La répétition dangereuse, un avertissement sérieux, précédé du « Pourquoi ?» qu'il vaut la peine de méditer. Et il y en a un qu'on ne peut pas ne pas citer. « Élie, Élie, pourquoi ?» Répétition du nom et la présence du « pourquoi » auquel nous n'avons pas, nous, de réponse pleinement satisfaisante. En tout cas, elle évoque certainement quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement coûteux. Alors, vous avez remarqué dans ces rares exemples d'un nom répété ou d'une expression répétée, il y a d'une part la qualité des personnages qui sont choisis, il y a quelque chose qui souligne que ce n'est pas par hasard que Dieu, ce jour-là, va dire « Saul, Saul, pourquoi ?» me persécutes-tu ? » Le message, je reviens maintenant au cas de Saul, le message est personnel. Ce n'est pas un message adressé à lui par erreur, par mégarde, pas du tout. Dans le récit qu'il nous rapporte, lui seul entend. Les autres ont vu, mais n'ont pas entendu l'appel. Ils ont simplement vu quelque chose d'extraordinaire. Et ils tombent. Ce Saul, prend plus de relief et plus de poids que simplement Saul. Et puis il y a le lieu et l'heure qui sont choisis. C'est juste avant d'arriver à Damas. Et c'est sur le coup de midi. Paul ne dort pas. Paul n'a pas de vision nocturne à cet instant-là. Et s'il est dans un désert, dans le désert, dans une région désertique, disons, à l'approche de Damas, c'est le lieu propice pour Dieu de se manifester. Que de fois dans l'Ancien Testament, c'est dans le désert. Et 40 ans de pèlerinage du peuple, c'est dans le désert que Dieu lui a donné les lois, que Dieu a accompli pour ce peuple des miracles. Un lieu particulier, privilégié, que Dieu choisit. Et dans le cas de Paul, je pense que ce lieu était aussi propice à la réflexion, à la méditation et à l'intervention particulière de Dieu. Paul ne dort pas. Et si je le dis, ce n'est pas simplement parce que c'est sur le coup de midi, mais parce que dans le récit parallèle, il dit « J'étais rempli de fureur contre cette secte. » Dans l'état d'énervement de Paul, il ne dormait pas. Pourquoi ? Une question qu'on ne peut poser qu'à un être rationnel, quelqu'un qui croit à l'enchaînement des causes et des effets, pour qui il n'existe pas de cause ou d'effet sans cause, qui ne croit pas à l'irruption du hasard dans le déroulement des vies et des paroles entendues. C'est un mot qu'on emploie tout le temps, on l'a utilisé déjà plusieurs fois ce matin. Quand un être se dit pourquoi, il s'arrête. Et quand un savant se pose des pourquoi, il fait avancer la science. Quand j'étais au lycée, il y a longtemps, mon professeur de sciences naturelles a voulu faire une expérience. Il y avait deux grands tubes, au moins d'un mètre de long. Dans l'un, il y avait du vide. Dans l'autre, il y avait de l'air, apparemment, mais ça ne se voyait pas. Et puis dans un tube, il y avait une bille de plomb. Et dans l'autre, un duvet de quelques canards, ou poules, je ne sais plus. Et il nous a fait deviner, en retournant les tubes, quel objet arrivera le premier en bas ? On avait tous dit, évidemment, la bille de plomb. C'est plus lourd. C'est une belle expérience. Et le duvet est arrivé en même temps, aussi vite que la bille de plomb. On s'est posé des questions. Pourquoi ? Voilà pourquoi. Et là, les savants, bien avant moi, ont découvert que l'air avait une résistance, que l'air avait du poids, que l'air offrait des caractéristiques dont aujourd'hui nous serons profités. Des parachutes, des avions, des deltaplanes, etc., etc. Il a fallu un jour que les hommes se posent des questions pour faire avancer la science. Et il en est de même en théologie, j'en suis persuadé. Quand on se pose quelques questions sur l'œuvre de Dieu, sur Dieu, on progresse. Les pourquoi arrêtent l'homme devant un mystère et font progresser sa connaissance. Parfois, on n'arrive pas à des bons résultats tout de suite. J'imagine que lorsque les hommes, je ne sais plus en quel millénaire, se sont posés la question pourquoi il fait d'abord jour et après nuit, ou nuit et après jour, alors ils ont cherché une explication. Et la plus simple, ils l'ont trouvée, le soleil tourne autour de la Terre. Ça explique les 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Et puis ils ont affiné après, parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'est pas vrai pour tous les astres. Alors ils ont dit, c'est la Terre qui tourne sur elle-même et autour du soleil. En général, quand quelqu'un vous pose la question « pourquoi ?», la première des choses à faire, c'est d'écouter. Si vous n'écoutez pas, vous allez répondre tout à fait à côté de la plaque. Il faut chercher à comprendre le sens, la pertinence, la véracité de la question qui, elle, n'est pas détachée d'une explication. On ne pose pas un pourquoi sans rien. Si je vous dis pourquoi, vous n'allez pas savoir que répondre. Si je vous dis pourquoi vous êtes là, vous saurez trouver une réponse. Quand il n'y a pas un élément qui accompagne, on se trouve comme devant les enfants qui sans cesse disent pourquoi. Pourquoi ? Pourquoi ? Et que répond-on ? Parce que. Il n'y a pas plus de réponse. Donc je voudrais maintenant me mettre un peu à la place de Saul, un homme intelligent, rationnel. Quand il a commencé par entendre pourquoi, il a dû s'arrêter. Effectivement, pourquoi est-ce que je suis là dans le désert ? Et pourquoi est-ce que je vais à Damas ? Et pourquoi est-ce qu'avant je suis allé chez le souverain sacrificateur pour demander des ordres d'arrêter les chrétiens qui se trouvent dans cette ville ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'obéis à des ordres que peut-être je n'ai pas bien compris ? Alors peut-être a-t-il répondu, mais parce que je déteste les chrétiens. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi est-ce que je les hais ? Pourquoi est-ce que je les déteste ? Il y a peu de temps, j'ai entendu un certain Étienne. Qu'a-t-il dit de travers ? Connaissez l'histoire du peuple ? Parlez en termes justes de la loi, de l'histoire. Pourquoi est-ce que j'ai joint ma voix à ceux qui l'ont lapidé ? Est-ce parce qu'ils n'adorent pas Dieu comme moi ? Et qui a tort ? Eux ou moi ? Pourquoi adore-t-il Dieu autrement que moi ? Et Paul a pu peut-être se dire, après tout, si j'examinais d'un peu plus près leur vie, leur croyance et leur piété, est-ce que je serais là ? Est-ce que j'aurais entendu une voix sortie de je ne sais où et de je ne sais qui pour l'instant, m'interroger pourquoi persécuter ? Et si j'avais peut-être trop vite cru ce qu'on raconte à leur sujet sans l'avoir vérifié par moi-même ? Et si moi, bon pharisien, j'avais transgressé un principe des pharisiens que Nicodème avait bien relevé quand il avait dit « Notre loi condamne-t-elle quelqu'un sans qu'on l'ait interrogé ?» Or, les chrétiens, est-ce que je les ai interrogés, moi ? Je les pourchasse. Je les élimine. Ce n'est qu'un exemple de raisonnement que Paul a pu tenir. Mais il a abouti. Et après, entre-temps, qu'il ait demandé à son interlocuteur « Qui es-tu ?» et que celui-ci ait répondu « Je suis Jésus, que tu persécutes ?» Paul a compris tout de suite. Et sa réponse en conclusion « Que veux-tu que je fasse ?» Il est arrivé clairement au bout. Il a certainement lutté, on ne connaît pas la chronologie de cet événement. Il veut en avoir le cœur net. Il a posé d'autres questions. Qui es-tu ? Sans doute est-il perplexe de constater que celui qui lui a parlé le connaît, puisqu'il l'a appelé deux fois Saul, Saul, mais que lui ne le connaît pas. Qui es-tu ? Et la révélation sera foudroyant. Je suis Jésus que tu persécutes. L'entretien est fini, pratiquement. Je ne sais en combien de temps Paul a raisonné, mais il a été logique jusqu'au bout. Rapidement, il a peut-être passé ses différents arguments, peut-être beaucoup d'autres, mais il arrive à la fin, que veux-tu que je fasse ? C'est un pourquoi très significatif et qui aboutit positivement. Je vais juste résumer ou relever encore quelques-uns de ces pourquoi significatifs de l'Écriture. D'abord, les pourquoi que Dieu adresse en général. Dès le début, pourquoi as-tu fait cela, Ève ? Pourquoi, Caïn, es-tu irrité ? Obliger ces personnages à s'arrêter, à ne pas continuer à marcher sans raison. Il y a les pourquoi que l'homme a dû, et le meilleur exemple c'est Job. Pourquoi m'as-tu fait naître ? Pourquoi me persécutes-tu, toi, Dieu ? Et pourquoi de Jésus aux disciples ? Pourquoi vous inquiétez ? Et la réponse, elle suit, vous valez beaucoup mieux que les oiseaux. Et pourquoi que l'être humain se pose à lui-même, et les psaumes 42 et 43 sont très significatifs, mon âme, pourquoi gémis-tu au-dedans ? Pourquoi ? Et la réponse, espère en Dieu. Il n'y a pas très longtemps, dans l'étude du comportement à l'intérieur de l'Église, on est arrivé à ce texte. Pourquoi juges-tu ton frère ? Des questions que les chrétiens se posent entre eux. Pourquoi juges-tu ton frère ? Et je reviens sur cette question d'un Dieu à un Dieu, ou du Fils de Dieu à Dieu le Père. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Nous ne pouvons que deviner la réponse. Elle est solennelle, elle est profonde, elle est immense, incommensurable. Je termine, je conclue. Il faut d'abord écouter les pourquoi de Dieu. Inévitable. Et ne les prenons pas toujours comme des accusations. Paul, Dieu n'accuse pas, Paul lui dit, écoute, arrête-toi un instant et réfléchis. Moi, je me suis dit, en lisant ce texte, oui, Dieu me demande, mais pourquoi est-ce que je lis la Bible ? Par habitude, par tradition. Pourquoi est-ce que je vais écouter Jean-Marc ou Étienne prêcher le dimanche ? Les pourquoi, tous les pourquoi, sont facteurs de progrès. Raison de changer de cap. Permettre de résoudre des conflits. Le petit mot en soi est banal, on l'emploie tout le temps, mais quand on le médite, il est riche de sens et de force. Peut-être que Dieu aujourd'hui pose la question, toi, pourquoi hésites-tu à faire le pas de la foi ? Je peux déjà deviner les réponses. Oui, mais les chrétiens sont tellement ceci ou tellement cela. Et puis finalement, toutes les églises se valent. Quand on voit ce qui se passe dedans, j'ai pas envie de... C'est pas la réponse que Dieu attend. Toi, pourquoi hésites-tu à faire le pas ? Et puis pour moi, pour nous chrétiens, pourquoi si peu de constance et d'empressement à lire ma parole ? À m'invoquer. Ça prend du temps. C'est difficile. Il faut réfléchir. Jésus a posé une question à Pierre. M'aimes-tu ? Il n'a pas dit pourquoi. Mais la raison est là. La question est là. M'aimes-tu ? Ma réponse est-elle sérieuse ? Est-elle solide ? Seul Dieu qui peut juger les cœurs peut aussi savoir si ma réflexion est honnête, si ma réponse est honnête, si elle honore, si elle m'honore par sa droiture, sa sincérité, ou si c'est simplement un faux fuyant pour éviter le dialogue avec Dieu. Nous n'avons pas, nous, de raison valable de ne pas répondre à Dieu. Lui en a des valables de ne pas répondre à tous nos pourquoi. Lui seul connaît l'avenir, lui seul connaît notre être profond, et lui seul connaît les raisons pour lesquelles il peut parfois nous faire passer par des chemins douloureux. Dieu t'appelle à t'arrêter. Dieu t'appelle à l'écouter. Dieu t'appelle à réfléchir au pourquoi qu'il te pose. Réfléchir à ce qui inspire ta vie. Dieu t'appelle éventuellement à changer de cap. Et j'ai trouvé un peu d'humour dans la réponse que Dieu donne à Saul. Saul allait vraiment à Damas. Et Dieu lui dit, oui, va à Damas, mais pas à l'adresse que tu avais choisie, toi. Va dans la rue que moi je te destine, que je te fixe. Et chez un homme dont je te donne le nom. Quelqu'un d'autre. Dieu nous invite, nous appelle à faire sa volonté. Là, je crois que je ne vais pas me tromper, que c'est peut-être pour notre bonheur présent, pas toujours, mais certainement pour notre bonheur éternel. Même si vous avez le sentiment parfois d'entendre un pourquoi, ne l'étouffez pas trop vite.